s'est passée cette légende et comment tu peux, à partir de là, en faire quelque chose par rapport à des thèmes. Comment est-ce que tu peux faire, je viens de le faire pour le cœur de la montagne, hein, si vous voulez, passer d'un domaine mythologique à un domaine en disant vous avez mal au dos, vous avez mal à la nuque. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, essayez peut-être de lire entre les lignes. Or, sachez quand même que la littérature, si je peux l'appeler comme cela, précolombienne, n'était pas écrite, hein. Il y avait des supports mnémotechniques comme mes fameux livres pliés en accordéon, mais en définitive, tout cela s'apprenait par cœur. Donc, en fait, on avait des collèges particuliers où on pouvait apprendre, comme dans notre Moyen-Âge, les chansons de gestes. Vous voyez ce que je veux dire? Or, il existe une geste tout à fait particulière pour ce fameux Quetzalcoatl, qui est le serpent à plumes précieuses, hein. Or, si vous voulez, je vous la raconte.
Oui,
Je vais
tout à
peut-être vous laisser hors antenne pour que vous puissiez taquiner les épaules et la nuque de votre mari pendant que je vous raconte l'histoire de votre douze, puisque je vais essayer en même temps, par l'aventure de Quetzalcoatl, de vous montrer quelle est, à tous deux, votre espèce d'habitude à penser que vous êtes obligé de passer par des formes un peu. Qu'est-ce que je vais dire? Vous savez, quand on fait partie de certaines, c'est dangereux, hein, mais oui, je dirais de certaines sectes ou de certaines fonctions, ou même des fameux réformés qui ont existé en France aussi et qui ont naturellement existé à Genève, qui en est la capitale spirituelle pratiquement grâce à notre ami Calvin. Eh bien, il y avait quand même des façons de fonctionner et de vivre qui étaient extrêmement sévères. Hein. Et vous le savez, moi je sais pas, j'ai relu des annales de mon propre petit village du canton de Vaud lorsqu'il était sous l'occupation bernoise qui a quand même duré 400 ans. Eh bien, il est vrai que le dimanche, si vous aviez juré pendant la semaine, oh crotte, et vous l'avez dit trop fort, hein, eh bien, on vous tondait les cheveux à peu près comme je suis tondu ce soir, voyez-vous? Donc le dimanche, par rapport à l'heure du culte, comme on l'appelait dans ces zones-là, et c'est toujours le cas, eh bien, on avait vraiment souvent des punitions qui étaient faites par des choses qu'on retrouve, et ça je le dis sans arrière-pensée, et qu'on retrouve encore dans ces villages ou dans ces cantons, qui est en fait ce côté un peu délation, vous voyez ce que je veux dire? Or, la geste que je vais vous raconter fait découvrir qu'il suffit de tomber dans un péché que je vais appeler mineur, à un péché que je vais appeler capital, et puis tout à coup, tout se met en route, et la morale, si vous voulez, aztèque, était une morale extrêmement sévère, puisque souvent, on était puni de mort, on était puni de certains châtiments qu'on s'octroyait soi-même, on était même dans des vertus autosacrificielles et parfois même on s'infligeait, si je peux le dire, des formes de châtiments qui étaient proches de ce qu'on pourrait appeler un suicide, hein, si j'ose le dire. Donc vous allez voir que cette geste a quelque chose d'un châtiment qui est assez curieux. Or, c'est un peu pour vous mettre en garde, Anna, tout comme votre mari Quimper. Vous, chère Anna Sao Tomé, vous dire simplement que essayez d'éviter de rentrer dans ce climat que je vais vous raconter par cette légende, par cette geste de Quetzalcoatl. C'est un petit peu mon message de ce soir. Et puis, comme il y aura une synchronicité que je cherchais la semaine dernière, je suis sûr que Pascal, qu'on va voir tout à l'heure, ou Marie-Claude, risque de nous refaire des petits, c'est-à-dire des petits douze. Alors, au lieu de traiter le vent, au lieu de traiter Quetzalcoatl sous la forme de Tlahuitzlapantécoutli, qui est mon seigneur de l'aube, eh bien, c'est un peu ce chiffre 12 que je vais vous accorder ce soir, puisque le chiffre 12 est justement le chiffre même qui supporte, ou qui est supporté, ou qui a comme régent, comme on le dit, cette fameuse planète Vénus sous la forme de Monseigneur de l'Aube. Je peux vous le lire. Vous
Tout à
pouvez
fait.
même l'enregistrer si vous voulez. Et vous verrez que ça correspond assez bien. Alors, je parlais de ce Quetzalcoatl. On vous laisse hors antenne ou comment est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez l'écouter en ma compagnie?
Non, non, j'aimerais l'écouter en votre compagnie.
Oh, alors, vous êtes juste à côté de moi, là. Serrez-vous, vous êtes sur ma gauche. Je
J'ai
mets
la
votre mari
chance,
à droite
Anna.
pour qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de jaloux, parce que je vais déjà masser le dos, donc je n'ai pas de complexe. Mais ça, c'est uniquement sur le plan thérapeutique, hein. Et si je reprends la geste de ce Quetzalcoatl, sachez qu'au départ, c'est en fait un homme-dieu. C'est-à-dire que c'est assez fréquent, comme nous avons dans nos grandes chansons de gestes, également des héros qui peuvent être des hommes-dieux. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller en Grèce ou en Égypte, mais c'est vrai que ça existait partout. Or, au Xe siècle, il y avait une légende qui était celle de Xoacatl Topiltzin Quetzalcoatl. Ça y est, on est bien parti là. Alors, Xoacatl, c'est la traduction de ce veut dire un. Acatl veut dire roseau. Topiltzin, c'est le prince. Et Quetzalcoatl, c'est bien le nom de ce fameux serpent à plumes précieuses. Hein. Quel civilisateur de cette mythologie toltèque, parce que bizarrement, les prédécesseurs, un peu comme nos Romains par rapport à nous, ou les Grecs par rapport aux Romains, eh bien c'était la légendaire Tula qui précédait la légendaire Mexico, vous comprenez? Donc il était roi de cet endroit et il avait été chassé par le dieu sorcier que j'évoque de temps en temps qui s'appelle Texcalclipoca. C'est-à-dire le dieu de la grande ours ou le dieu de ce vent un peu nocturne qui souffle un peu ce soir d'ailleurs et qui deviendra après son sacrifice sur les rivages de l'Atlantique cette fameuse étoile du matin, cette annonciatrice de son retour, de cette, je vais dire, c'est vraiment le dieu de la rédemption américaine. Hein. D'ailleurs, je l'ai évoqué, je crois, il y a 3 semaines, les Mormons, puisqu'on parlait de secte, ont repris ce mythe de Quetzalcoatl en pensant qu'effectivement Jésus était revenu au Xe siècle sur les terres américaines de forme messianique, une fois au Mexique sous la forme de Quetzalcoatl et au Pérou sous la forme de Viracocha. Alors, l'épopée mythologique de Quetzalcoatl, celui que je vais appeler tout à l'heure le serpent à plumes précieuses, eh bien, il remplit vraiment tout l'horizon culturel de mes Aztèques, hein, qui ont cette langue qu'on appelle le Nahuatl. J'aime bien ce mot. Nahuatl, ça veut dire la langue harmonieuse, la belle langue. Hein. Alors, ces chants qui s'appelaient des Melahuicuicuatl, eh bien, c'était vraiment ces épopées de gestes qu'on racontait comme cela. Et vous allez voir que c'est extrêmement prolixe. Ce sera relativement long, mais c'est tellement proche de nos légendes et de nos contes que je crois que ça vaut la peine une fois de montrer où est l'origine de certaines choses qu'on a pu apprendre. Parce que, naturellement, ce dieu héros va avoir un parcours un peu traditionnel que tout le monde connaissait, mais il y avait des gens qui étaient là uniquement pour les raconter. Alors ça commence comme ça, vous imaginez un théâtre, vous imaginez un personnage qui est emplumé et qui est justement l'acteur, celui qui sait parler. Hein. C'est une sorte de volute qui sortait de sa bouche en dessin même, et qui avait appris par cœur ses textes. Donc il les apprenait comme cela devant une société qui était soit des prêtres, soit des militaires, parce que les prêtres allaient à la guerre, les militaires allaient à la guerre, et il y avait certaines choses qui étaient obligatoirement à reconnaître, tout comme on peut faire un sermon que j'évoquais tout à l'heure pour une religion qui serait catholique ou qui serait protestante. Alors ça commençait comme ça. À l'époque où naissait Quetzalcoatl, pendant 4 jours, il fit frémir sa mère. Et vous allez voir que le chiffre 4, il revient très souvent. Alors ça, c'est vraiment le début sous la forme de « il faut bien qu'il naisse, vous êtes d'accord ?» Alors ça, on vous en met comme ça déjà pendant 10 bonnes minutes jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on arrive à l'âge d'or de tout là. Il faut bien imaginer ce moment génial. Alors, on disait, on racontait que quand il gouvernait au temps du premier Quetzalcoatl, celui que l'on nommait ce Acatl, vous avez traduit maintenant, ça veut dire un roseau, hein, eh bien qu'alors il ne voulut jamais faire de sacrifice humain. Non, il ne voulut jamais ces sacrifices. Mais ensuite, quand Wemak gouverna, tout cela commença et devint habitude. Ce sont les sorciers qui l'ont commencé. Alors là, vous avez, je ne sais pas, on peut imaginer Sophie qui vous met des tambours, oui. Et hop, vous seriez dans l'ambiance, parce qu'à côté du conteur, il y avait naturellement tout le côté musical. C'était pratiquement comme si vous aviez une sorte de théâtre avec, en même temps, ce côté, musicien. Alors imaginez cette langue qui est prononcée, là, qui est juste chantée, vous les entendez encore derrière, ils vont rester en... Alors, avec Quetzalcoatl commencèrent tous les arts, tout ce qui est technique. J'ai souvent parlé de tout ce qu'ils allaient nous apporter. Hein. Ces maisons étaient dressées, on en a parlé la semaine dernière, l'une était en émeraude, l'autre était en or, il y en avait une de coquillage rouge, il y en avait une en nacre. Ils avaient même des maisons avec des panneaux de turquoise. Il y en avait une qui était décorée de plumes de Quetzal. Là-bas, tout était richesse, tout était fin, riche. Même ce que l'on mangeait, toutes sortes de nourriture. On dit que les calebasses étaient immenses et qu'elles étaient grosses et que leur tour devait mesurer environ, ça c'est l'espagnol qui traduit, quelque chose comme 4 brasses, hein, et que certains ou certaines de ces calebasses étaient de forme ronde. Ben oui, ça me paraît normal, hein, même pour nous, pour le 1er novembre. Hein. Et les épis de maïs étaient longs. Ils étaient longs comme des manches de métatais. Vous vous rappelez qu'on a fait la sauce la dernière fois, qu'on a préparé du maïs avec ce manche qui broyait sur le métatais, ces épis qui étaient très longs et qu'il fallait les mesurer avec les bras tellement ils étaient longs. Les pousses de blettes étaient hautes comme des palmes, elles poussaient encore. Donc vous imaginez, vous les cueillez, on a l'impression qu'on voit un dessin animé là. Et là vivaient aussi toutes sortes d'oiseaux au beau plumage, des bluets, des quetzals, des oiseaux noirs et jaunes, et les oiseaux rouges précieux au long cou, de même que toutes sortes d'oiseaux qui ont de belles trilles, ceux qui ont un chant si paisible, et toutes sortes de pierres fines, d'émeraudes, de l'ordre. Tout cela n'était pas compté, non, tant il y en avait. Et en ce qui concerne le cacao, eh bien, il y en avait du plus fin et en abondance. Partout poussaient les plants de cacao. Jamais les habitants de Toula n'ont connu le besoin. Ils étaient toujours heureux et prospères. Rien ne manquait chez eux. Sachez que si vous l'achetez votre maison, hein, il vous faudra des petites graines de cacao. Hein. Ben oui, c'est obligatoire, Anna. Hein. Le cacao était une monnaie d'échange. Hein. C'était la boisson sacrée. Et quand ils nous disent qu'à Toula poussait le cacao, ça n'est pas la Toula qui est près de Mexico à 2000 mètres d'altitude. Le cacao, c'est quelque chose qui vient des tropiques. Hein. Donc Toula était une ville mythologique, carrément. Une sorte de paradis terrestre, comme ça, où tout pouvait pousser de façon tropicale. Alors, rien ne manquait chez eux. Hein. Alors, les petits épis qui restaient, qui ne poussaient pas, eh bien, on les servait tout simplement pour chauffer l'eau du bain. Alors les sorciers sont venus là où se lavent les oignons. Je ne vais pas vous lire le nom de l'endroit où se lavent les oignons parce que vous allez vous boucher les oreilles, Anna. Ils sont venus habiter avec un laboureur qui avait un nom très sympathique, lui. Il s'appelait Maxtla. C'était le gardien de la colline des Toltecs. Alors ils ont cuisiné des légumes, des tomates, des piments. Vous remarquez que tout ce qu'on a reçu des Amériques arrive, hein ? Des tendres épis de maïs, des tendres gousses de haricots. Et pendant quelques jours, ils ne firent que cela. Et comme là, il y avait des agaves, ils en demandèrent à Maxtla. Et pendant 4 jours, ils préparèrent le vin d'agave. Et peu à peu, le raffinèrent. Ils avaient découvert eux-mêmes de petits pots de miel sauvage. Et ils le mélangèrent au vin. Les voici qui partent pour la demeure de Quetzalcoatl à Toula. Ils emmènent tout ce qu'ils ont préparé. Leurs légumes, leurs piments et tout le reste. Ils emmènent aussi le vin, que moi j'appellerais plutôt de la bière. Une sorte de bière fermentée. Ils sont arrivés et ils ont aussi essayé de parler au roi, mais la garde de Quetzalcoatl n'y a pas consenti. Non, 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 on ne les laisserait pas rentrer. 2 ou 3 fois, ils les ont repoussés. Cela ne leur était point permis. Enfin, on leur demanda où ils habitaient. Alors vous remarquez que j'ai toujours 1, 2, 3, 4, et ensuite ça s'ouvre. Et ils répondirent, ils disaient, eh bien, là-bas, sur la colline des prêtres, là-bas, sur le plateau des Toltecs. Quetzalcoatl entendit cela et dit enfin, qu'il rentre. Ils entrèrent, le saluèrent et lui offrirent les légumes. Quand ils eurent mangé, alors ils l'ont prié et ils lui ont offert le vin d'agave. Et lui, certes non, je ne boirai pas de cela. Je suis un homme d'abstinence. Cela est peut-être enivrant. Cela est peut-être mortel. Il dit, mais goûte-y, au moins avec le doigt. Il est bon, il est récent. Quetzalcoatl le goûta avec le doigt, il aima et il dit « Je vais boire, grand-père, je vais boire jusqu'à 3 fois. » Et les sorciers lui dirent « Tu en boiras même 4. » Et ils lui en donnèrent 5. Ensuite ils dirent au roi « C'est ton offrande au Dieu, sais-tu ?» Et quand il eut bu, alors ils en offrirent à ses vassaux et à chacun 5 mesures. Et ils le burent et tous trouvèrent l'ivresse. Attention, Anna. On est déjà dans le petit péché, là. Et ensuite, les sorciers ont dit à Quetzalcoatl, « Prince, chante, s'il te plaît. Et voici le chant que tu dois entonner. Voici ma maison de plumes, voici ma maison plume de quetzal vert, c'est ma maison de plumes noires et jaunes, plumes dorées, de pluvier, cette maison de nacre rouge, il faut la quitter. Aïe, aïe, aïe. » Il y a beaucoup de aïe, aïe, aïe dans les chansons précolombiennes. Et quand il fut envahi par une grande joie, il dit « Emmenez-moi la natte précieuse, Quetzalpetatl, ma propre sœur. Mettez-la près de moi. Nous allons continuer à boire jusqu'à l'ivresse. » Quand ils eurent bu, ils ne dirent plus rien. Nous sommes gens d'abstinence. Ils ne sont plus jamais descendus pour le bain rituel dans la rivière. Ils ne sont plus allés chercher les épines. Ils n'ont plus rien fait quand l'aurore était là et qu'elle allait poindre. Et quand le nouveau jour fut arrivé, ils se sentaient pleins d'amertume. Leur cœur était amer. Quetzalcoatl disait alors « Malheureux que je suis ». Écrasé de tristesse au-dedans de lui-même, il fit ce chant et il dit en partant « Qu'on ne tienne plus compte de mon sort chez moi, je dois en rester là. Et comment là? Là oui. Même si je chante, même si mon cœur a été fait de terre, eh bien, souci et douleur, voici mon héritage. Jamais plus jamais je ne retrouverai la vie. » Et il chanta aussi cet autre chant. « Ici je me nourrissais, ici me donnait tout ma mère, celle qui a la jupe en serpent. J'étais son fils, mais maintenant je ne fais que pleurer. » Et quand il eut terminé son chant, ses vassaux aussi, emplis de tristesse, tous unis, se mirent à chanter ce chant. Il nous avait enrichis dans une source et douce prospérité. Il était notre roi, le grand Quetzalcoatl. Vos émeraudes brillent, le bois rouge est brisé, et nous voici en pleurs. Et quand les vassaux eurent fini de pleurer, Quetzalcoatl leur dit « Grand-père, mes serfs, je vais quitter la ville. Je vais entreprendre ma route. Donnez des ordres pour qu'une boîte en pierre, un sarcophage en fait, hein, me soit taillée. » Et en toute diligence, ils firent une boîte en pierre. Quand elle fut faite, ils ont couché Quetzalcoatl. Il y passa 4 jours dans ce coffre de pierre. Il reprit sa santé, il se leva le 4e jour et dit alors « Mes grands-pères, mes serviteurs, partons, fermez tout, cachez tout ce que nous avions découvert. C'était la richesse, la joie, c'était notre bien et notre trésor. » Vous avez compris, Anna, qu'il était parti maintenant vers l'Est, hein?
Mm-hmm.
Et l'on raconte qu'en l'an 1 roseau, vous vous rappelez qu'un roseau, c'était son année de naissance?
Oui.
C'est un peu comme si le cycle se refermait, hein?
Mm-hmm.
Il parvint au rivage de la mer, au bord du grand océan lumineux. Et là, il s'arrêta et il se mit à pleurer. Il prit ses ornements et lentement, il les revêtit. Sa parure en plume de Quetzal et son masque de turquoise. Et après s'être paré, il s'est mis le feu lui-même à ses vêtements. Il s'embrasa dans les flammes. Voici pourquoi on nomme le bûcher là où Quetzalcoatl s'est brûlé. Et il est notoire que lorsqu'il brûla et que ses cendres s'élevèrent, vinrent le voir, vinrent le contempler tous les oiseaux au beau plumage qui vont et volent dans les airs. L'ara aux plumes rouges, le bluet, le tour si fin, le brillant oiseau blanc, les perroquets, les perruches et tous ceux qui ont un plumage jaune et tous les oiseaux raffinés. Et quand cessèrent de brûler ces cendres, le cœur de Quetzalcoatl s'éleva dans les hauteurs. On le vit. Et selon les témoins, il fut emmené au ciel et il y entra. Les vieux disent qu'il est venu l'étoile du matin, celle qui paraît avec l'aurore. Elle vint alors, elle apparut alors, lorsque mourut Quetzalcoatl. Voilà pourquoi ils ont pris le nom de maître de l'aurore. Et l'on raconte encore que lorsqu'il mourut pendant 4 jours, on ne le vit pas, parce qu'il est descendu vivre au royaume des morts. Et pendant ce temps-là, là-bas, il avait acquis des flèches. Et 8 jours plus tard, c'est un compute qui correspond totalement à la planète Vénus, hein? Eh bien, il revint briller comme une grande étoile. Et il est notoire que ce fut alors qu'il commença de régner. C'est ainsi que Quetzalcoatl a terminé son histoire et a fait son sacrifice. Vous avez un peu mieux compris ce qu'était le 12, Anna?
Oui.
C'est impressionnant, hein?
C'est impressionnant, oui.
Or, c'est à partir de tous ces petits détails qu'on peut, petit à petit, en recoupant ces différentes annales, par exemple, là, je vous ai lu des textes qui sortaient des annales de Quauhtitlan, c'était vraiment, ou la légende des soleils, qui était un codex, effectivement, qui avait été repris par ces Espagnols du XVIe siècle, et vous imaginez l'Indien qui, comme je viens de vous le faire, parlait en nahuatl, je pourrais vous le faire, c'est-à-dire on a des poèmes qui sont des poèmes doubles, où on a justement la partie qui était écrite en langue aztèque, c'est-à-dire en nahuatl, et puis juste à côté, on avait la traduction qui était faite par ces premiers ethnographes espagnols pour nous raconter en fait l'histoire telle que je vous l'ai lue. Alors il a fallu naturellement parfois faire des traductions, moments qui pour moi ont été assez difficiles. Par exemple, si je prends des textes de base, vous avez quand même des mots assez curieux en langue aztèque, Anna. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple là où il y a des flèches colorées, hein, ça paraît tout simple, ça se dit Ontlakoshitwikan, et ce n'est qu'un seul mot. C'est-à-dire que c'était une langue qu'on appelle agglutinante. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait, comme en allemand, coller certains morceaux à d'autres morceaux. Et à partir de là, on obtenait quelque chose qui pouvait être une autre façon de l'entendre ou de le traduire. Donc c'est souvent extrêmement délicat de traduire certains de ces textes parce que cette littérature, cette poésie, ces récits historiques, ces prières et même toutes ces formes divines, eh bien, elles nous sont arrivées souvent sous une forme évidemment compacte, si je peux dire. Et ça demande des interprétations qui d'ailleurs, d'un auteur à l'autre, parfois, peuvent être un petit peu différentes. Je vous raconterai peut-être à l'occasion exactement comment fonctionnaient ces œuvres théâtrales ou ces façons qu'on a déjà un petit peu avec Sophie, qui a osé nous mettre un peu de musique précolombienne, pour vous mettre un petit peu cette ambiance de l'époque. Hein. Je vous laisse, puisque je crois qu'on est là aussi pour faire quelques thèmes. Hein.
Tout à fait, malgré que je resterai avec vous.
Bah oui, bah je vous laisse avec le nahuatl qui signifie harmonieux, hein, qui flatte l'oreille, c'est ce que j'essayais de vous faire, Anna. qui rend bon son. Ça irait bien pour une radio, ça. Allô, Radio Nahuatl ?
Ouais, oui, ça serait génial.
Et c'est un mot qui était utilisé justement comme un adjectif qui exprimait vraiment ce sens précis, cette langue harmonieuse des Aztèques. Alors, ce qui est intéressant, c'est ces voyelles qui sont riches, des sonorités qui sont extrêmement limpides, qui sont assez accusées, comme ça. C'est assez amusant à entendre aussi. Hein. Et puis, il y a toujours des interjections à l'intérieur qui m'ont beaucoup amusé. Hein. Je vous ferai une fois le coup des petits oiseaux, vous verrez, c'est absolument tordant. C'est quand vous avez des chants où on imite tous les oiseaux que j'évoquais tout à l'heure. On le faisait par la langue. Hein, à la fin de chaque... Par exemple, si vous dites oiseau, on dit toto.
D'accord.
Alors, l'endroit où vit l'oiseau, Tototepec. On a l'impression qu'effectivement, il y a sa petite montagne et dessus, vous avez le petit toto. Or, souvent, on imitait le son même de l'animal par la façon de dire toto, toto, qui est vraiment le son de l'oiseau. Vous pigez, c'est une langue qui est extrêmement poétique. Voilà, je m'arrête, j'irai faire le thème de Pascal. On va peut-être passer à un côté plus latino pour la musique. Je peux vous dédier la prochaine chanson ?
Oui, merci.
Je ne sais pas si ça correspond à votre date de naissance, parce que je savais qu'on a toujours joué sur l'anonymat, mais vous savez qu'il y a un très beau mois dans l'année, qui est le mois d'avril. Hein ?
Oui, tout à fait.
Alors, Amaury Pérez vous dit simplement, rappelle-toi du mois d'avril. C'est pas le mois où vous avez connu votre mari, Anna ?
On se connaît depuis l'âge de 13 ans. Donc.
Vous ne vous rappelez plus si vous vous êtes trouvé dans un mois d'avril avec les premiers cerisiers en fleurs.
Nous allions à l'école ensemble.
Ah bah oui, bah c'était. Vous savez que la rentrée des classes à l'époque, ça se faisait au mois d'avril.
Ah d'accord. Ah bah voilà.
Acuérdate d'avril.
C'est.
C'est pour Quimper, de la part de Sao Tomé.
Merci.
C'est une excellente nuit. Au revoir.
Merci au revoir,
beaucoup.
Anna.
Au revoir.
Acuérdate de abril, recuerda la limpia palidez de sus mañanas. No sea que el invierno vuelva y el frío te desgarre el alma. Acuérdate de abril. Recuerda la luz, pero la luz más clara, la que el beso más mío deja donde la boca más lejana. Acuérdate de mí si abril te llega. fiel y amada en otros brazos. Acuérdate de mí si a mí volviera. Un nuevo traje y nuevo lazo. Acuérdate de mí cuando el otoño le dé paso a la primavera. Acuérdate de mí si el pensamiento te libra del amor que te sujeta de abril que no se aleja si hay más congoja y menos prisa. Acuérdate de abril, recuerda mi andar sobre tu piel descalzo. Acuérdate de abril, recuerda mi gesto en el primer abrazo. Acuérdate de mí si te sorprende el viento que otro abril trajera. Acuérdate de mí si nunca a tu amor convenza. Acuérdate de mí, no me abandones, tan solo que esté aquí me desespera. No olvides que el amor vuela de noche y anida en otro abril. Cualquiera, cualquiera, cualquiera.
Belle voix, hein?
C'est fabuleux, j'adore. C'est tout. En plus, c'est des... quand on comprend les paroles, c'est extraordinaire.
Ah, dorénavant, chers auditeurs, c'est Sophie qui va vous traduire les paroles.
Si, Seigneur.
Vous aurez la stéréo avec en même temps une petite voix off, comme c'est Sophie, traductrice de cette chanson.
Oui.
Bah oui.
Pourquoi pas, j'adore cette langue.
Ce côté d'avril, là, ça vous plaît bien aussi, ce côté printemps.
Oui, tout à fait. Oui.
Bah, tout à l'heure, vous aurez un autre chanteur qui est absolument fabuleux, que vous connaissez certainement, Sophie, c'est Victor Manuel.
Mm-hmm.
Alors, on offrira certainement à Pascal ou à Marie-Claude qui suit Pascal, parce que ce serait peut-être plutôt pour Marie-Claude, qu'on ne sait jamais. Quiero abrazarte tanto, on ne sait jamais. L'abrazo, la souhaite une chose tout à fait masculine aussi. Hein.
Mm-hmm,
vous savez quand on se rencontre. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Quand on se rencontre, vous le savez, au Mexique, on fait l'abrazo. Vous savez ce que c'est? C'est-à-dire que je vous prends par les épaules et je vous tape dans le dos très fort. Hein? Alors ça fait un peu de bruit, c'est assez particulier. Mais en définitive, l'abrazo était vraiment une coutume qui remonte déjà, je dirais, à l'époque des pistoleros. C'est-à-dire que vous savez qu'au Mexique, enfin, quand j'y suis arrivé, c'est pourtant pas si vieux que cela, je crois que c'était, attendez que je ne dise pas de bêtises, c'est au moment de la prise du pouvoir de Luis Echeverría, qui est un des présidents. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien qui est le président au Mexique. Hein. Vous connaissez le problème actuel entre ces deux concurrents et ces élections qui paraissent avoir été un peu fraudées. Donc, on ne sait plus très bien qui est le président actuel du Mexique, ou qui va l'être, en tout cas, après Fox. Hein. Alors, à l'époque d'Echeverria, on avait, qui avait été ministre d'ailleurs auparavant déjà, et qui avait été assez sévère par rapport aux événements de 68 que j'évoquais la dernière fois, ou certaines choses politiques sérieuses au Mexique, eh bien, c'était un président qui avait interdit la vente des balles. Or, il faut savoir, Pascal, qu'au Mexique, quand vous étiez entre amis, à l'époque où on pouvait tous s'acheter des balles, Sophie le sait très bien, je suis sûr qu'elle connaît l'Amérique latine et qu'elle sait très bien que chacun peut avoir son pistolet comme il l'entend.
Ah, mais carrément, il y a
Ben
même
oui.
des endroits en Amérique latine, c'est le Far West.
Ben voilà, et moi j'ai connu un Mexique Far West où les gens nettoyaient leurs pistolets sur la table du bistrot. Et à l'époque, on pouvait acheter des balles comme vous achetez du chewing-gum, vous comprenez ce que je veux dire? Et naturellement, lorsque vous rencontriez quelqu'un dans la rue, même si c'était votre avocat, ah, qu'est-ce que, Don Pasquale? Et vous faisiez un abrasso complet, et en même temps, vous lui passiez les mains dans le dos. Vous avez compris, Pascal, pourquoi?
Voir s'il n'avait pas de...
Ben oui, pour savoir s'il était, c'est tout simplement pour savoir s'il était armé. C'est la base même de l'abrasso entre les hommes dans certains pays d'Amérique latine. C'est uniquement pour contrôler si vous êtes effectivement non armé. Vous le saviez, ça, Pascal? Donc vous comprenez mieux pourquoi la chanson où on utilise le verbe abrazarse, c'est du même ordre, hein, le mot bras, embrasser, c'est vraiment la formule, non pas sur les joues, mais c'est la formule utiliser les bras pour entourer quelqu'un, tout simplement. Pascal, anonyme ou je dis tout? On dit tout, Pascal. Eh bien, vous avez de la chance d'être né à Genève, c'est déjà une tare. Vous êtes né à 20h55, je vous dirais que c'est grave. Et vous êtes né le 12 mai 1965, ça vous va? Vous êtes en direct? Vous confirmez? Vous êtes prêt à tout encaisser? Sachez qu'aujourd'hui, nous sommes un jour 6 herbes sèches, 5, pardon, j'ai rajouté un depuis tant qu'on fait des calculs. Tout à l'heure, c'était le 5 que j'évoquais involontairement pour Quetzalcoatl. Quand j'ai choisi mon texte, je n'ai pas du tout fait le rapport avec l'ivresse de Quetzalcoatl. Mais vous avez écouté le...
Oui, tout à fait, oui.
Et vous avez remarqué effectivement que l'ivresse était quelque chose qui faisait très peur aux précolombiens. C'est-à-dire que ce sont des gens très écologiques, si je peux les appeler comme ça. Donc toute forme de déséquilibre, quel qu'il soit dans la nature ou dans votre être profond, dans votre propre nature, donnait à craindre par rapport aux énergies, ce qui est tout à fait normal, hein. Je veux dire, nous sommes devenus un peu aberrants, vous obligeant dans certains pays d'Europe à fumer, ça c'est américain, je dis américain au sens précolombien, hein, en dehors du bar. Maintenant, on va vous contrôler effectivement au degré près pour savoir ce que vous ingurgitez. Je veux dire, ce genre de contrôle que nous sommes en train de vivre, y compris, disons, le Radiolac a l'habitude de donner les radars, vous savez. Alors moi, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai même plus envie de téléphoner sur le zéro, je ne sais plus quel numéro, parce qu'il y a un numéro spécial pour les radars sur notre antenne, parce que maintenant, quand vous faites à Lausanne-Genève, vous vous demandez encore si vous êtes en voiture ou si vous êtes en automatique qui s'arrête à 120. Ben, il y en a 22, je crois. Je disais compte. C'est génial.
Ça tombe bien, 22.
Pascal,
oui.
On plaisante, mais vous êtes trois verbes sèches. Donc, vous avez aussi un petit peu l'esprit de ce soir. Mais je ne vais pas dire que Sophie, qui s'appelle 5 roseaux, ne fait pas partie de la même famille. Tout comme Monsieur Quimper en 5 singes ne fait pas partie de la même famille. Hein. Tous ces numéros 5, là. Vous savez que Sophie qui vous parle, là, vous l'avez déjà entendue? Oui? Vous savez qu'elle a commencé la semaine dernière dans l'émission. Et je crois que... Est-ce que vous êtes d'accord qu'on va la garder? Parce que ce soir, elle rentre. Elle remplace
Merci,
Alexandra, mais comme
Pascal.
Elle connaît bien l'Amérique latine, je trouve que c'est sympathique, ça permet d'avoir peut-être plus de tuyaux. Comme ça, elle va nous amener chaque fois un tuyau sur, vous savez-vous, comment est-ce à quelle heure il faut aller voir, par exemple, le Perito Moreno en Patagonie pour avoir le meilleur paysage, ou attendre le moment où le glacier tombe dans le lac, à quel moment il y a la pression particulière chaque année.
C'est précieux, ça.
Bah écoutez,
oui.
Hein, quand on a mis ses pieds comme cela, et je peux dire qu'il faut dire que Sophie a non seulement mis ses pieds, mais elle a mis les sabots de son cheval. Hein.
Oui, c'est vrai.
Elle a fait de grandes épopées américaines
à
cheval. Pascal, on est dans une émission d'astrologie aztèque, vous le savez. Alors, j'ai besoin d'une question très précise. Nous ne jouons pas sur l'anonymat, nous avons donné votre date. Vous êtes trois herbes sèches. Un chien pour ceux qui aiment faire les thèmes avec Monseigneur l'écorché, 5 maisons parce que vous aviez aussi un 5 caché avec un seigneur d'obsidienne qui fait un tout petit peu je me coupe en petits morceaux sympas, et un 4 silex avec le maïs qui s'équilibre beaucoup mieux. C'est disons la partie, je dirais que c'est le moment de votre vie que j'ose mettre rêver avant votre naissance. Eh ben, si je devais acheter Pascal, moi, je l'achèterais dans les 9 premiers mois. Ça vous va? Ah, qu'on était bien dans le ventre de maman. Il y a un peu de ça, Pascal.
Peut-être, je ne sais pas.
Vous, mais... vous avez cette mémoire de vous rappeler que c'est l'endroit où vous étiez le mieux depuis que vous avez été conçu?
Non, je n'ai pas encore cette conscience-là, mais...
Ça peut venir, hein?
Oui.
Je vous prends volontiers une fois pour vous faire remonter à cette époque-là.
Oui, ça m'intéresse.
Ah oui, c'est génial. Ça, ouais. C'est vraiment génial. Je vous avoue que j'ai vécu... On est dans l'anonymat lorsqu'on ne cite personne, hein. Mais je viens de vivre deux événements absolument incroyables avec deux mamans enceintes qui travaillaient sur elles-mêmes. C'est génial de voir à quel point, selon le type de découverte, je ne vous dirai pas les découvertes parce qu'il y en a une qui était impressionnante. La première était née trop vite. Ça paraît étrange, hein, mais étant née trop vite, elle avait l'impression qu'elle avait raté la sortie, c'est-à-dire qu'il lui manquait quelque chose. Et curieusement, elle s'est rattachée à ce qui lui manquait vraiment, c'est-à-dire le placenta de sa mère. Je veux dire, dans l'exercice, si vous voulez, elle s'est réunie, elle s'est remise en qualité de vie avec elle-même. Hein. Alors c'est très drôle parce que chaque fois qu'elle atteignait des points extrêmement sensibles, eh bien le petit garçon qui était dans son ventre répondait des pieds. C'est impressionnant, hein. Ah oui, non, mais c'était du direct absolu. Hein. Moi, je le voyais en face, c'était terrible. Et la deuxième personne m'a fait l'inverse, avec également un petit bébé dans le ventre. Et là, c'était l'inverse. C'est-à-dire que tout à coup, dans sa démarche, au fur et à mesure qu'on avançait, elle m'a dit une chose très curieuse. Vous savez, il y a des phrases types comme ça. Puis je prends mon cutter. Enfin, je dis cutter, c'est pas un cutter, mais j'aime bien cette idée de faire un peu comme les grands peintres italiens qui déchiraient leur toile avec un cutter. Moi, je fais ça sur mon ordinateur et je souligne quelque chose qui m'a percuté comme ça. Hein. Alors, cette personne en était partie sur une idée, je ne sais pas nager. Et puis elle me dit, mais j'ignore totalement l'océan. Je n'ai vraiment pas compris pourquoi. Puis juste après, elle me dit « Oh, je n'ai jamais aimé mettre la tête sous l'eau. » Tiens. Alors, vous soulignez simplement. Et tout à coup, dans la démarche, on se retrouve au moment de la naissance. Et là, on réalise qu'elle a dû attendre 15 jours avant de pouvoir sortir. C'est-à-dire que c'était l'inverse. Hein, elle n'a pas pu sortir. Et curieusement, elle le savait non pas par le racontage sympathique de la famille, hein, mais elle s'est rendue compte. Mais là, vous auriez dû voir la tête de la personne, hein, et la réaction du bébé. Elle s'est découverte toute noire. Et elle a confirmé, c'est vrai que c'est ainsi qu'elle est née. Vous savez, quand un bébé reste trop longtemps et qu'il y a déjà quelque chose qui devrait bouger, on a un noircissement complet. Hein. C'était autant du liquide amniotique qui n'est plus, entre guillemets, agréable, hein. Il n'a plus le même goût, il n'a plus le... Et c'était impressionnant puisqu'elle venait de découvrir que la seule chose qu'elle ne voulait pas faire ou pas refaire, c'était retourner dans la mer primordiale, enfin la mer première, la mer primordiale. Hein. Ce que les précolombiens appellent effectivement cet océan inframonde noir. Hein. Donc la seule chose que cette jeune femme, future maman qui avait déjà eu un enfant, ne voulait pas refaire, c'était mettre la tête sous l'eau. C'est-à-dire, pour rien au monde, elle voudrait retourner dans l'océan. Vous pigez ?
Oui.
Et ça, on le fait dans la même démarche, donc c'est impressionnant. Alors, vous, je peux vous dire, Pascal, hein, je ne vous parle pas gratuitement, le seul moment que vous avez vécu de façon on ne peut plus harmonieuse et géniale, c'est cette première période.
C'est possible. Oui. Ouais. C'est vrai que je n'ai jamais travaillé vraiment aussi loin.
Mais vous n'avez pas eu de désinformation ou de. On ne vous a pas dénié cette partie de votre existence.
Non, pas du tout. J'ai jamais été aussi loin dans mes recherches.
Oui, mais vous pouvez déjà répondre, Pascal. Vos parents s'aimaient, ils vous ont désiré, et vous avez été attendu.
Oui.
Donc, moi, je vous le dis, vous le sachiez, ça paraît normal, vous connaissez votre papa et votre maman. Hein? Mais moi, je ne l'aurais pas téléphoné avant de vous avoir au bout du fil. Or, je vous dirais que c'est peut-être la partie la plus noble, la plus saine, la plus sympathique de votre thème. Hein? Et là, il y a vraiment quelque chose qui fait une qualité de signe que je trouve rare. Il y a le 4. Ah, peut-être que tout à l'heure, je vous raconterai, parce que curieusement, j'ai déjà fait le thème de Marie-Claude, qui est juste après vous, et qui, elle, a plein de soleil aussi. Or, ayant plein de soleil, vous avez, à l'heure de votre conception, je vais vous le faire de façon un petit peu imagée, puisqu'on est un peu poète ce soir, eh bien, à l'heure de votre conception, vous avez reçu la plus belle étincelle qu'on puisse recevoir, hein, celle du soleil, justement. Alors, c'est vrai que tout cela est dû à votre père. Est-ce que vous avez une ressemblance particulière du côté paternel? Je veux dire, si vous êtes vraiment le fils de papa.
Oui, c'est clair.
Papa est content, il sait que son fils, il n'est pas de quelqu'un d'autre. Hein.
Non, c'est clair.
Mm-hmm.
C'est ça.
Et ce qui serait intéressant, c'est de comprendre que dans ce thème, il est hyper présent. C'est-à-dire qu'il vous a vraiment envoyé un maximum d'énergie, si j'ose dire ça comme ça. Hein. Génétiquement parlant, votre père est en présence de façon incroyable à l'heure de la conception. Mais qu'est-ce qui va se mêler de cette conception entre l'ovule et la petite chose de papa qui bougeotte? Eh bien oui, c'est un peu comme si je faisais vos chromosomes ou votre ADN, hein, Pascal. Et là, le 4, c'est le soleil. Et ce soleil, c'est vraiment la partie la plus vigoureuse, la plus juvénile que vous recevez directement, à côté d'un silex qui est le sexe mâle, qui est donc votre père. Donc là, vous recevez toute la partie virile, avec en même temps, curieusement, et ça, vous devez le sentir aussi, curieusement, cet aspect qui passe par votre père peut même remonter à quelqu'un d'autre avant. Mais vous allez voir qu'il y a une sorte de filière extrêmement douce. Quand je dis douce, c'est tendre. Ça vous dit quelque chose ? Je veux dire, il n'y a pas du tout le silex pourrait faire croire à quelque chose d'un peu carré, d'un peu brut comme ça, vous savez, comme le parfum. Brut de brut. Mais pas du tout. À côté, il y a le maïs et la douceur. Hein. Alors c'est une filiation. Je dis c'est une filiation dans le sens que certainement le père de votre père et vous-même avez ce même côté à la fois très viril et en même temps très, très, très doux finalement.
Je pense, oui.
C'est marrant d'arriver à faire le portrait bien. T'arrives à faire le portrait de quelqu'un, et même de trois personnes, hein, comme on est en train de le faire, uniquement à partir d'un thème de conception. C'est sympa, non? Maintenant que je vous ai dit le bon, vous allez me poser la question du soir, Pascal.
Oui. Donc, en fait, voilà, donc je suis bien dans mon travail, je suis très heureux depuis 16 ans dans la même entreprise. C'est juste parfait. Seulement, j'aimerais de plus en plus, je pense, à me reconvertir. J'ai des envies depuis très longtemps et j'hésite à me lancer parce que c'est tout à fait autre chose.
Je peux être très clair. Vous avez envie d'indépendance ?
Ou vous indépendance, j'ai envie de pouvoir m'exprimer artistiquement, on va dire.
Mais je veux dire, vous n'avez pas envie de le faire seul, entre guillemets.
C'est une démarche que je commencerai seule, mais je ne serai pas seul au bout du compte. Non, je vais m'associer, on sera
d'accord. Non, parce que ma question est très précise. La seule chose que je ne vois pas et que je ne voudrais pas voir, mais c'est un conditionnel, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une critique, c'est un constat. Vous n'avez pas un thème qui est fait pour être indépendant. Il y a des gens qui le sont et j'en fais partie. Je veux dire, vous me mettez n'importe où tout seul, je vous monte un truc. Vous voyez ce que je veux dire?
On l'a dans
le thème, vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, je ne suis pas depuis 16 ans dans une même...
Vous avez déjà répondu par vos 16 ans. C'est vrai que je suis sympathiquement schnouf et que j'aurais dû commencer peut-être par votre continuité, qui en soi est déjà quelque chose qui me montre que, sans le savoir sur le plan des énergies, et vous l'avez dans le thème, j'explique mieux ce fil à la patte, entre guillemets, qui représente une forme de fidélité, mais en même temps d'insécurité. Je veux dire, dans 5 maisons obsidiennes, il y a quand même quelque chose qui fait que ce côté nid, j'ai bien parlé de votre force virile et de ce côté doux, et je dirais même fragile, et il y a même cette baraka du maïs qui est là, dans le thème de conception. Mais dès que j'arrive à la naissance, bizarrement, et dès que j'ai les problèmes de ce qu'on appellerait l'enfance et l'éducation, là, on vous apprend à être craintif. Et c'est fort, je veux dire, avec un thème aussi noblement chasseur, voilà, je prends un terme indien, pour pas dire macho, parce que c'est pas du tout l'idée. Je dis noblement chasseur parce qu'il y a, si je vois un chasseur Nahuatl ou Huichol, je me rappelle, j'ai été remplacé parce que j'ai pas du tout l'allure du chasseur Huichol pour aller chercher un cerf. On vous donne 15 jours. On vous donne 15 jours d'agilité, un arc et des flèches. Et on vous dit, maintenant tu te débrouilles, tu pars dans la montagne, genre Colorado, et tu vas me chercher un cerf et tu reviens avec. C'était pas vraiment mon style, pourtant je n'étais pas spécialement mauvais coureur, mais je ne crois pas que je porte les sandales comme eux, je ne crois pas que je suis Taro Mara et que je fais un double marathon sans aucun problème en le gagnant à tous les coups, donc, et surtout pas à 2000 mètres et quelques d'altitude, sous un soleil de plomb avec des nuits aussi fraîches que les nôtres. Donc ces gens-là ont ce que j'appelle cette souplesse de base. Si je prenais 4 silex maïs, qui est votre... truc de départ, je dis, oh, allez-y, là, vous êtes le Huichol du coin, vous pouvez partir faire les 900 bandes du Peyote, il y a vraiment une énergie extraordinaire. Mais dès que j'arrive à votre éducation, j'ai l'impression que là, on vous met en boîte avec ce 5 d'abord qui va créer une sorte de... chez vous, c'est une sorte de vibration. J'ai les yeux qui tournent, là, je ne suis plus très sûr de moi. Il y a le côté maison, Ça, c'est peut-être, on va lui le dire quand même, c'est peut-être quelque chose qui glisse et qui arrive comme ça et qui s'infiltre, qui s'insinue en vous du côté de maman. Ben oui. Et puis, il y a vous-même qui n'osez pas derrière avec l'obsidienne. C'est-à-dire, vous vous coupez de vous-même un peu. Alors, il y a le Monseigneur l'écorché qui ne m'arrange pas non plus. Le chien qui, par l'introspection, devrait vous permettre de mieux vous comprendre. Mais il y a surtout le 3 qui est tout en haut, qui fait qu'il y a eu un ou deux événements dans cette enfance qui me montrent qu'on a cassé un petit peu cette énergie souple et chasseuse. Vous le sentez. D'ailleurs, vous l'avez vécu aussi sur le plan affectif. Bah tiens, je vous ai pas raté là. Hein,
et toute ma vie.
Je vous ai pas raté là, parce que j'ai déjà mis la flèche au milieu du cœur, et vraiment, là, il y a quelque chose qui touche, hein, c'est le faucon, et là, il y a une attaque qui, sur le plan affectif, est assez forte. Hein. Et là, je dis dur, dur. Or, bizarrement, par rapport à cet élan qui est artistique dont vous parlez, le côté artistique, vous l'avez plus... Comment vous dire ça? Vous l'avez plus... Là, je le dis à l'inspiration, comme ça. Vous l'avez plus de façon onirique que de façon pratique. Mm-hmm. Vous me suivez? Mm-hmm. Et si je vous dis, montez-moi un site web, faites-moi un machin, etc. Ça, ok, pas de lézard. Hein? Mais de me mettre avec des clous, un marteau, me construire une cabane au Canada qui ressemble à la Tour Eiffel, c'est pas votre truc. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui.
C'est qu'il n'y a pas cette, il y a pas ce côté trappeur, il n'y a pas ce côté chasseur, il n'y a pas ce côté audacieux dans votre thème. Or, vous avez aussi cette curieuse habitude d'avoir des hauts et des bas, des je fleuris, je suis sec. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui,
mais... dans le côté affectif, c'est très marquant. Hein. Or, je dirais que ce côté affectif a déteint sur votre façon de vous comporter dans le travail. C'est-à-dire, vous avez recherché dans le travail une forme de sécurité que vous n'avez pas forcément sur le plan affectif. C'est plus facile d'aimer son bureau que... Vous voyez ce que je veux dire?
C'était la seule chose de stable que j'ai eu pendant 16 ans.
Mais c'est pour ça que je vous taquine, Pascal.
Non, c'est vrai,
je dis à mon bureau, je l'aime bien. Mon bureau, je l'aime bien. Vous revenez le lendemain, c'est le même, il ne vous a rien dit. Hein.
C'est la seule chose qui n'a pas bougé.
Ben, c'est ce que je vous dis. Je suis taquin. Tandis que quand vous vous mettez avec quelqu'un, eh ben, bizarrement, il y a du répondant. Hein, je suis tombé sur un schéma. Bingo, j'ai pris une flèche. Je m'en suis pris plein la gueule. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour d'hier. Demain, ce n'est pas demain. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mariage, divorce, ben, la vie. Quoi.
Il y a ah, chic.
Ça a bougé, sauf ça.
Mm-hmm. Est-ce que j'ose être indiscret par rapport à ce vécu? Comment avez-vous, dans votre thème, créé ce couple maison-silex? C'est-à-dire, comment voyez-vous vos rejetons aujourd'hui, là?
Mais j'ai plutôt un rôle, une approche copain que père
D'accord.
autoritaire et tout, même si je m'occupe de leur éducation sérieusement. Mais
bien sûr.
J'ai plutôt...
Vous en avez combien?
J'ai plutôt être l'ami que le père...
Vous en avez combien?
Deux. Un garçon de 18 ans et une fille de 13 ans.
C'est un couple, non?
Oui, un garçon et une fille.
D'accord. C'est intéressant parce que, comme vous avez cette dualité dans votre thème, je ne suis pas surpris. Hein. Bizarrement, j'évoquais tout à l'heure deux personnages par rapport à leur naissance et à leur façon de fonctionner. Lorsqu'on crée ces dualités enfant-fille, enfin garçon-fille, c'est tout à fait normal, mais on le voit parfois dans le thème, dans la dualité même du thème. Or, chez vous, quand vous me dites copain-ami, je comprends mieux que lorsque je vois maison-silex chez vous, c'est-à-dire maman-papa, vous recréez en deux personnages chez vous ce que vous êtes, vous, aux enfants. Vous me comprenez? Or là il y a quelque chose qui est pas totalement clair. C'est pas une critique, hein, c'est un constat, et qui me renvoie de nouveau à cette notion d'audace par rapport à votre choix, c'est-à-dire votre façon d'être relativement bien tranché dans le point de départ et de ne plus l'être à la fin du thème. Vous vous annoncez trois herbes sèches et c'est vrai que si je devais vous engager pour une aventure artistique, je me dis il a tout ce qu'il faut, il est visionnaire, il a des choses formidables. Mais le 3 qui est là est pourtant bien l'idée d'avoir un petit bureau, un petit truc en équipe, en maison, etc. Mais il y a vraiment ce coup du faucon, cette peur de la blessure qui donne une crainte qui est assez curieuse.
Oui, qui donne aussi un peu un côté fataliste.
Absolument.
Je préfère me dire,
je comprends très bien votre thème.
Ça ne marchera pas plutôt que de me dire, j'y vais.
C'est joli ce que vous dites.
La peur de l'échec, tout ça.
c'est joli ce que vous dites, parce que la déesse qui est votre déesse d'entrée, que vous mettez sur votre petit écriteau de prénom, c'est-à-dire le 3, est la déesse à la jupe de jade. Hein. Or, c'est la plus fataliste de toutes, puisqu'elle prend les gens et les jette dans le torrent et leur dit, t'es comme un fétu de paille, tu vas te faire emporter et tu te laisses faire. Hein. Donc, c'est la seule divinité qui dit énergétiquement parlant qu'on ne contrôle pas son énergie. Or, ça se traduit, comme vous l'avez si bien fait, parce que vous connaissez, par le fatalisme. Hein. C'est-à-dire que le précolombien donne parfois l'impression d'avoir une vertu fataliste dans son astrologie. J'en donne peut-être parfois l'image, ou en tout cas la version, dans ma façon d'infliger certains thèmes à certaines personnes. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'à partir de cette base que vous appelez fataliste, Pascal, le précolombien sait pertinemment qu'en travaillant sur soi, sous une forme vraiment qui va retrouver quel est ce sacré faucon qui m'a été donné là et qui m'a piqué à un moment donné et qui m'a bousillé. Pourquoi est-ce que cette partie de l'éducation m'a transformé puisqu'il m'a dit que j'avais un thème de départ génial et quand j'étais dans le ventre de ma mère, j'étais un innocent qui pouvait vraiment faire péter la planète avec une inventivité, une énergie qui valait bien toutes les énergies nucléaires possibles. Ben oui, vous avez le droit d'y aller. C'est-à-dire c'est une mine qui existe en vous. Et le côté fataliste dans l'astrologie précolombienne est annulé par le fait que la personne a le pouvoir, au sens sorcier du terme, mais je dis pouvoir avec un grand P, vous savez, ce beau P qui n'est pas celui du vouloir, devoir, non, à cette espèce de pouvoir du guerrier, comme l'Indien se nomme guerrier ou chasseur, j'ai donné ça parce que c'est mal interprété chez nous parfois, qui justement par sa souplesse lui permet de transformer complètement son énergie et sa vie. Donc si on retrouvait vraiment ce côté 4 silex et maïs, eh bien je crois qu'effectivement vous auriez presque une découverte assez impressionnante. Alors, je crois que je vais vous répondre un peu comme je l'ai fait pour Anna, si vous le voulez bien. Et puis on terminera peut-être pas avec un précolombien parce qu'on n'en a pas sous la main forcément, mais on a notre musique de fond qui permettrait juste de faire un peu de découpe avant de vous mettre un disque pour vous, là, qui était celui que je vous avais promis plutôt au féminin. Mais ce qui est intéressant dans ce que je vais vous lire, c'est justement ce que vous avez un peu vécu sur le plan affectif, Pascal. C'est-à-dire le fait que vous avez finalement une sorte de vie qui a des périodes intenses. Je ne parle plus du professionnel, là. Hein.
Oui.
Mais on verra aussi pourquoi...
Il n'y a pas que ça non plus dans ma vie. Mais...
Comment ?
Il n'y a pas que ça non plus dans
non,
ma
non,
vie.
Non, non, non. Mais je ne parle plus du professionnel parce que là, il y a une durée. Hein.
Oui.
Or, le reste est terriblement cyclique. Alors, j'ai presque envie de vous lire quelque chose qui correspond assez à votre façon énergétique, qui est quand même une façon qui est... Comment le dire ? Qui est fluctuante et qui a des l'herbe sèche, voyez-vous, a des périodes fastes et des périodes néfastes. Hein. On est toujours dans un système en balancier. Ce soir, il a commencé à pleuvoir, donc je parle souvent de l'essuie-glace. Hein. Et ce mouvement-là, il correspond assez à une légende que les précolombiens ont également... vous avez aimé tout à l'heure celle de Quetzalcoatl. Eh bien, là, je vais peut-être vous lire l'histoire des quatre soleils qui ont précédé le nôtre. Hein. C'est-à-dire ces cataclysmes qui arrivent les uns derrière les autres, des Tchernobyl, si vous voulez, qui systématiquement obligent à refaire complètement le monde par rapport à l'équilibre. Hein. Ben, c'est un petit peu ce que j'aurais envie de faire avec votre partie sommitale du thème, pour arriver ensuite à retrouver cette partie de base qui est incroyablement équilibrée et qui correspond, que vous le sachiez vraiment, à notre propre soleil dans lequel nous vivons. C'est-à-dire celui qui finalement est le cinquième, mais dans son sens, alors là, non plus négatif, comme votre 4 et votre 5 qui, mis ensemble, créent une forme d'électricité statique entre les cataclysmes d'avant et l'actualité de quelque chose qui pourrait être stable, hein, parce que notre soleil va aussi se terminer un jour, ça c'est vrai, hein, mais quelque chose qui tout à coup devient... La vérité de ce qui vous permettrait d'avoir ce côté artistique et de le développer. Alors là, je dirais en petite équipe, hein, 3-4 personnes maximum. Or, vous osez nous dire quel est le genre de d'envie artistique que vous avez pour que je puisse vous appuyer entièrement par rapport à cette herbe sèche et voir si c'est vraiment ce que j'appelais le côté visionnaire de tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Je fais du graphisme... Comme ça, en indépendant, j'aimerais que ça devienne un peu plus sérieux.
D'accord, ben je crois que là, je vous ai répondu puisque je vous ai parlé d'ordinateur et que je vous voyais, hein et que je vous voyais vraiment sous une forme assez rangée, avoir ce côté visionnaire, donc image. Hein. Ce qui ne veut pas dire peinture, on est bien d'accord. Hein.
Non, 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 j'arrive pas.
Non, non, mais c'est pas votre truc. Hein. Je veux dire, c'est, là, vous, si je vous demandais de même de faire du Klein en tout bleu, c'est pas votre truc. Je plaisante, mais c'est simplement que vous vous sentez à l'aise quand vous avez des matériaux qui vous permettent d'avoir une vision à la fois claire et quand même bien, ce que je peux dire, compartimentée. Oui, c'est ça. D'accord. Je vous offre la version des quatre soleils. Parce qu'avant les hommes, il y avait quatre soleils, quatre airs qui avaient divisé, si vous voulez, le temps ou les temps. Et votre thème par rapport à l'herbe sèche, eh bien, c'est justement ces espèces de contrastes, ces passages où l'on passe d'une chose à l'autre. Hein. N'oubliez pas que l'herbe sèche est très proche de l'idée hallucinogène, donc il y a toujours ces versions qui font que toutes ces airs ont disparu dans d'effroyables catastrophes et que le cinquième soleil, celui dont je parlais, celui des hommes, hein, le nôtre, et dont nous avons la charge, dont vous avez la charge par rapport à votre envie, par rapport à votre désir, hein, c'est vous qui allez devoir donner cette part de vous-même que vous avez dans le 4, qui est la fameuse petite caille qu'on sacrifie à la place d'un homme, je préfère que ce soit ça plutôt que vous-même, et qui fait qu'au lieu de continuer à rester dans cette inertie ou dans cette espèce d'auto-quelque chose, je n'ai pas dit sacrifice, mais je ne suis pas loin, vous puissiez mettre en route cette vertu qui fasse qu'en donnant cette énergie, vous puissiez en retour avoir ce bénéfice qui serait l'accomplissement de votre profession, mais surtout de votre joie de vivre. Oui, c'est vrai, parce que ce n'est pas parce que vous êtes de 65 que vous n'avez pas justement ce virage à prendre, parce qu'il est là avant 45 ans dans votre thème. Hein.
Très bien.
Je suis très clair. Hein. Mm-hmm. Vous restez à l'antenne quelques secondes et je vais vous dire comment on racontait, on disait qu'ainsi il y avait eu avant quatre vies et que celui-ci était le cinquième âge. Comme le savaient les vieux, en l'an un lapin, la terre et le ciel ont assis leur fondement. J'aime bien ce côté, hein, une belle assise, comme ça on voit qu'ils sont vraiment... Et ils le savaient ainsi, hein, ils savaient que quand la terre et le ciel eurent assis leur fondement, il y avait eu quatre genres d'hommes, quatre genres de vie, comme vous, quatre énergies. Hein. Et ils savaient ainsi que chacune d'entre elles avait existé dans un soleil. Et ils disaient que les premiers hommes, leur Dieu les fit, les forgea avec la cendre. Ils attribuaient cela à Quetzalcoatl, dont le signe est sept vents. Il les fit, il les inventa. C'est un peu comme dans la Genèse, hein. Il suffit de prononcer, il suffit du verbe divin, et la chose se fait. Le premier soleil qui prit ses assises, son signe était quatre eaux, on l'appelait soleil d'eau. Il est arrivé avec lui que l'eau emmena tout. Les gens devinrent poissons. Vous avez compris qu'il y a un déluge. C'est vrai que l'ordre ici est un peu différent de celui qu'on connaît d'habitude chez les Aztèques, parce que souvent on termine par le déluge avant notre monde. Le second soleil est fondé alors et son signe était quatre jaguars. On l'appelait, vous voyez que c'est votre chiffre, hein, le 4. Quatre jaguars, on l'appelait soleil de jaguar, il est arrivé avec lui que le ciel fut opprimé. Le soleil ne savait plus sa route. Quand le soleil arrivait à midi, tout de suite il faisait nuit. C'est le monde à l'envers, hein. Et les jaguars dévoraient les hommes quand il faisait sombre. Et c'est dans ce soleil que vivaient les géants. Les vieux disaient que ces géants se nommaient ainsi. Ne tombez pas, car celui qui tombait, tombait pour toujours. Le troisième soleil fut fondé alors. Son signe était quatre pluies. On l'appelait soleil de pluie. Vous voyez que tous les soleils ont des noms de baptême, comme vous, vous appelez trois herbes sèches, hein? Donc les jours de naissance des soleils existent en même temps que leur jour de mort. C'est le même d'ailleurs. On l'appelait soleil de pluie et il est arrivé qu'avec lui, il a plu du feu. C'est la pluie volcanique. Hein. Ceux qui vivaient en lui ont été brûlés. Avec lui, il a plu du sable. Et avec lui, ils ont dit qu'il n'y avait plus les cailloux de tous ceux que nous voyons que la pierre de Tessonclé a bouilli et qu'alors les rochers ont rougi. Son signe était quatre vents. Le quatrième soleil fut fondé alors. On l'appelait soleil de vent. Pendant sa durée, tout a été emporté par le vent. Ils sont tous devenus singes. Et ils se sont éparpillés à travers les monts. Ils ont été vivre, les hommes singes. Le cinquième soleil. Quatre mouvements sont signes. On l'appelle soleil du mouvement. Parce qu'il bouge, qu'il suit sa route. Et comme les vieux nous le disent, avec lui, il y aura des mouvements sur terre. Il y aura des famines. Et nous périrons ainsi en l'an 13 roseau. On dit qu'il est venu exister, qu'il est né, le soleil qui existe maintenant. C'est alors qu'il éclaira, qu'il fit l'aurore, le soleil de mouvement qui est là, maintenant. Quatre mouvements est son signe. C'est lui le cinquième soleil qui a été fondé. Avec lui, il y aura des mouvements sur terre. Avec lui, il y aura des famines. Vous avez mieux compris, Pascal ? Là, vous avez des énergies spéciales. C'est marrant qu'avec c'est un poème, finalement. Là, c'est une formule qui devait être chantée aussi. Ce sont des annales, de nouveau, du codex de Chimalpapoca. C'est quelque chose qui a été écrit aux alentours des années 1570. Donc, assez tard par rapport à la conquête espagnole. Or, c'était encore des poètes et des gens qui parlaient cette langue, qui les ont transcrits, qui en avaient la mémoire, comme si vous vous rappeliez encore d'un... Est-ce que vous vous rappelez d'une poésie ou d'un poème que vous avez lu et appris quand vous étiez jeune, Pascal ?
Non, pas trop.
Même pas un petit bout ?
Comme ça, non.
Rien ?
Non, là, ça vient pas.
Non, une chanson d'enfance ?
Non plus.
Mais vous voyez, si vous étiez à l'époque, en 1570, un prince aztèque, que je vous demande, est-ce que vous vous rappelez ? Vous auriez répondu oui, vous comprenez pourquoi ?
Mais je pensais pas à la radio avec le stress que ça peut.
Ah oui, c'était ça. Et puis je vous imaginais un prince aztèque sur la radio à l'époque en 1570, ça devait être quelque chose. Non, si je vous dis ça, Pascal, c'est parce que vous me dites non parce que vous avez une bibliothèque. C'est-à-dire que vous avez lu des choses quand vous étiez enfant, vous avez continué à faire vos études jusqu'à la fin, et tout cela est dans des livres ou des cahiers, etc. Oui. Et l'aztèque, en définitive, était comme le musulman d'aujourd'hui, qui à n'importe quel âge est capable de vous raconter le Coran, puisqu'ils l'ont appris par cœur. Or, ces gens-là apprenaient par cœur de leur père, de leur grand-père, dans le sens que si les gens étaient naturellement des gens qui pouvaient même se raconter de façon peut-être plus publique, pour ne pas dire familiale, dans le cadre des quartiers et des petites zones religieuses, mais qui naturellement se faisaient sous une forme carrément grande, théâtrale, au moment des fêtes qui correspondaient à ces différents dieux de l'année, qui étaient nombreux, puisque on en dénombrait, selon le calendrier, pratiquement des milliers. On a un petit peu de friture, Pascal, sur votre ligne aztèque. Est-ce que vous avez une dernière petite demande ou est-ce que vous êtes déjà satisfait par la possibilité de sortir de votre fatalité ?
Non, ça me rassure. Je m'en doute un petit peu, mais j'ai besoin de...
Oui, mais alors, qu'on soit très clair, la dernière petite information que je peux vous dire, c'est que vous avez éveillé vraiment tout ce qu'il fallait pour mettre en route votre histoire de graphisme l'année passée. Vous y êtes ?
Longtemps.
Oui, et je dis, mais l'année passée, il y a eu quelque chose. Si vous cherchez dans les petites graines de l'année passée, il y a certainement la base de la soudure pour créer le petit groupe dont je parle. Que vous le sachiez, simplement.
Oui.
Et que le moment où ça va vraiment commencer, entre guillemets, à tourner, c'est-à-dire au moment où vous pouvez vraiment faire une bascule, curieusement, c'est assez loin. Je veux dire, pour que ça marche vraiment, c'est 2008.
Oui, mais je pense que c'est une chose qui va...
Et ça se mettra en place petit à petit.
Je ne suis pas pressé non plus.
Non, il n'y a pas de quoi. Ouais. C'est simplement pour vous dire que ce n'est pas quelque chose qui va faire « j'ai eu saison de boulot, boum, je fais du graphisme, j'y vais ». Non, pas du tout.
Attends.
Vous avez déjà les petites graines, elles sont là, et vous n'avez qu'à les mettre en place pour créer cette espèce de petite phalange, si je peux l'appeler comme ça. Et à partir de là, vous allez la mettre en place jusqu'à ce début d'année 2008 que j'évoquais tout à l'heure.
Très bien.
D'accord ?
Merci.
Bonne continuation, Pascal. Et n'oubliez pas de nous rappeler pour nous signaler votre premier contrat de graphiste.
J'appellerai à Radio Lac à ce moment-là.
Oui, vous pouvez même passer aux infos le matin si vous le voulez.
Okay.
Et puis vous raconterez une petite poésie.
Je vais réfléchir. Merci.
Je suis sûr que vous en savez une pour Noël. Vous pouvez rappeler juste avant les fêtes.
Maman.
Allez, il faut avoir un peu d'humour. Bonne nuit.
Merci.
Bonne nuit, Pascal.
Merci, Pascal. Au revoir.
Alors, on lui a promis une chanson qu'on pourrait dédier à une de ses très chères. Je l'ai mis au pluriel, je suis gentil, vous voyez. Vous avez compris. Eh bien, j'aimerais vraiment t'embrasser. J'aimerais tellement t'embrasser. Victor Manuel.
Me gustaría besarte.
Ou abrazarte.
Ah, abrazarte.
Abrazarte tanto.
Ay,
quiero mucho.
Mais avant ça, Maurice, on va rappeler le numéro de téléphone 0848-808-818. Ainsi que le vôtre, votre numéro personnel, Maurice, le 022 731 33 33.
Entre 8h et 9h.
Entre 8h et 9h, et tout de suite, de la belle musique.
Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez y olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa que ha roto para volver y así creer en lo que les conté. Dije que te quería como temo a nada en el mundo que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. Siento tu mano tibia que palmo a palmo besa mi piel y tus brazos me enredan hoy como ayer. En este nuevo día vuelvo a creer. Vente conmigo al puerto que hay una barca en el malecón con tu nombre pintado secando al sol con tu mano grabada junto al timón. Sabes que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. Quiero abrazarte tanto con mis sentidos, con tanto amor que no haya más sonido que nuestra voz y mi cuerpo en el tuyo continuación. Y andaré la tierra como un romero buscando a un dios y tendré tu regazo, tu comprensión, una casa pequeña para los dos. Tú sabes que te quiero como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón.
Elle est vraiment très gaie, hein, cette chanson-là.
Eh oui, bon, mais ça change un petit peu. Disons, c'est pas tout à fait, pas toujours le climat qu'on a l'habitude de mettre sur notre antenne. Mais je trouve qu'effectivement, ces trous verts de tous les pays d'Amérique latine mettent une ambiance qui correspond bien à notre nuit Azteca.
Tout à fait.
Sophie.
Oui, dites-moi.
Est-ce que vous avez apprécié ces différentes formules épiques et mythologiques ?
J'aime beaucoup parce que j'apprends énormément de choses.
Bah, c'est un petit peu l'idée, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup fait Azteca en faisant une dizaine de thèmes. C'est vrai que le téléphone sonne énormément. Mais je trouve que ça peut apporter à certains de nos auditeurs une nouvelle facette qui leur permet de mieux comprendre d'où je tire mes ressentis, je dirais presque mes interprétations, parce qu'un lecteur de destin reste un lecteur de destin, et c'est souvent le cocktail d'ensemble qui tout à coup me saute aux yeux et m'inspire quelque chose. Or, c'est vrai que si moi, ça m'arrive de me comparer avec un barman que j'ai beaucoup connu, je buvais un peu comme les Aztèques ne doivent pas le faire. Non, c'est pas vrai, c'était pas pour boire, c'était vraiment pour la magie de celui qui préparait les cocktails. Je ne sais pas si vous avez vécu dans ces palaces de temps à autre, Sophie, je vous le souhaite, surtout après une grande cavalcade à cheval dans la Pampa. C'est sympa de se retrouver dans un 5 étoiles uniquement pour le plaisir de voir un barman en train de valser avec ses shakers et ses verres. Et c'est vrai que c'est des fois assez impressionnant de voir les mélanges, la subtilité des mélanges d'un cocktail. Or, je ne fais pas autre chose finalement, ce sont des cocktails. Chacun de nos auditeurs vient, demande un thème et cherche à comprendre certaines choses sur sa vie, au passé, au présent, au futur. Et on l'interprète à partir de cette vision de ces 11 éléments d'un cocktail qui souvent se réduisent de façon extrême. Est-ce qu'on a quelqu'un sur l'antenne ?
Oui, on a Céline.
Bonsoir.
Céline. Anonyme ou publique ?
Je crois que je préfère anonyme, oui.
Vous avez tort.
Ah bon ?
Céline, est-ce que vous m'autoriseriez à donner le jour de votre anniversaire ?
Oui.
Mais je dis pas l'année, hein ?
Ouais.
Je dis même pas que vous êtes né à Genève, rien du tout. On cache tout, ça vous va ?
Ouais.
Non, vous savez, j'ai pris ce soir le soin de prendre quelques textes que j'ai eu le plaisir de travailler à la fois à Toulouse avec Georges Baudot et qui sont des gens qui ont vraiment travaillé sur cette langue nahuatl, hein, et qui ont essayé de reprendre toutes ces annales pour nous traduire cela au plus proche. C'est très difficile de faire du français avec du nahuatl, hein, puisque j'ai chaque fois ce langage imagé. C'est comme si je vous disais fleurs et chants. Qu'est-ce que ça vous dit? Vous n'allez pas traduire par poésie, pas forcément. Hein. Or, il y a tout le temps des amalgames, hein, comme je le disais tout à l'heure, dans cette langue. Or, vous êtes un amalgame des plus étranges, Céline.
Ah bon?
Ça change si
je suis pas dans l'anonymat?
Non, est-ce que ça change quelque chose si vous n'êtes pas dans l'anonymat? Ouais. Non, mon seul vœu, je peux le faire en anonyme aussi, c'est que vous êtes né, curieusement, par rapport au texte ancien que je racontais, vous êtes né exactement le jour où Cortés a rencontré l'empereur Montezuma. Alors vous ne pourrez plus ignorer votre anniversaire, hein, qui est en début novembre. Mmh. Et ce qui est intéressant, vous l'avez eu il y a quelques jours, hein, pour ne pas le cacher. Or, cet anniversaire est vraiment la rencontre et le choc de deux cultures. Hein. Essayez d'imaginer l'épopée même de Cortés, qui lui va s'échapper de Cuba, où il est parti sans rien dire à son copain Velázquez, qui était quand même le gouverneur, lui étant secrétaire et ayant monté une expédition qui était prête à partir, mais qui était interdite par ce gouverneur. Et puis, fuyant avec armes et bagages et bateaux, je veux dire, il a pris des chevaux, il a pris des bombardes, il a mis ses marins, il a mis son matériel, tout ce qu'il fallait pour manger, et il s'est barré. C'est-à-dire, c'est une véritable... je dirais que c'est une forme de mutinerie, finalement, le départ de Cortés depuis Cuba. Hein. Or, depuis Cuba, vous savez, est-ce que... Je peux vous demander de prendre un crayon, Céline, et vous dessiner Cuba. Vous y êtes? Vous avez dessiné Cuba, c'est fait?
Pas du tout, non.
Mais si, vous dessinez à côté la pointe du Yucatan, c'est fait?
Non.
Ben si, vous allez voir que c'est tout près.
D'accord.
Ben, vous prenez une carte de géographie, vous regardez où est Cuba. Hein, c'est un peu comme le lac de Radio-Lac, vous voyez, Cuba. Mm. Mm. Puis au bout du lac, eh ben, vous avez Genève. Hein. Ben, vous avez un jet d'eau à Genève. La fin du jet d'eau, c'est déjà le Yucatan. Non, je plaisante à peine. C'est quand on voit sur la carte des Caraïbes et de l'Amérique, il est vrai que c'est étrange de voir à quel point Cuba est la pointe du Yucatan. Vous connaissez Cancun. Vous voyez où c'est Cancun? Ben voilà, et ben ce coin-là par rapport à la Havane, c'est tout près finalement. D'ailleurs, il y a plein en ce moment d'invasions cubaines sympathiques. Là. Oh là là, puis ils dansent, ils font de la musique. Ils ont monté des boîtes en dehors de Mérida. Mais je vous dis, toutes les femmes de Mérida condamnent leur mari pour aller dans ces boîtes. Oh, il y a une ambiance tropicale. Je vous dis pas si c'est chaud. Hein. Déjà qu'on ondule un peu à Mérida, je vous dis pas. Mais on danse plutôt la jarana, on a des choses assez classiques, on a 40 ans de retard, c'est pas vrai. Hein. Cancun est une ville tout à fait neuve qui est née en 73. Mais ça c'est le Quintana Roo, c'est pas tout à fait le Yucatan. Mais le Yucatan a quelque chose de vieux dans la mesure où c'est un endroit qui a été isolé du monde. Même à l'époque précolombienne, ça a été isolé. Il y avait pas grand-chose pour y aller si ce n'était des pirogues. Hein. Et puis à l'époque coloniale, franchement, quand vous étiez à Mérida, c'était plus facile d'aller à Paris que d'aller à Mexico. Je veux dire, par là, il n'y avait pas de route. Hein. Et puis, il y a eu des bateaux, bien sûr, qui allaient sur Veracruz et qui remontaient ensuite sur le Mexique. Mais les trains sont arrivés à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire, il n'y avait rien qui reliait cette terre-là à autre chose. Alors, le fait d'être tout près par rapport à Cuba, c'est assez étrange parce que, bizarrement, les vents n'ont jamais fait que les Cubains ont découvert le Yucatan. C'est-à-dire, les premiers Espagnols qui se sont installés d'abord à Cuba, hein, pratiquement, Hispaniola n'est pas loin, mais c'est entre Saint-Domingue, Haïti, qui ne représente qu'une seule île qu'on appelait Hispaniola, et Cuba, hein, qui est bien la même aujourd'hui, les Espagnols se sont très vite établis à Cuba. Vous y êtes ? Et en fait, depuis 1492, on a attendu jusqu'à 1517 pour toucher le Yucatan, qui était vraiment à quelques encablés, vous voyez ce que je veux dire ? Or ça, c'est dû au vent. Les vents vous empêchent d'y aller. C'est-à-dire que vous pouvez descendre sur le Honduras, vous pouvez descendre sur le Panama, vous pouvez descendre sur la Colombie ou le Venezuela parce que les vents vous poussent contre en bas. Mais vous n'êtes pas poussé sur le côté ouest qui vous amènerait tout de suite au Yucatan. Donc il a fallu bizarrement à la fois un naufrage en 1511 pour que les premiers Espagnols arrivent au Yucatan. Et il y a eu deux survivants, dont un qui a pris le Maya et que Cortés a rencontré lorsqu'il a touché le Yucatan. Donc entre 1517 et 1519, en deux ans, Yucatan étant connu, il y avait un truc très curieux que je crois que j'ai déjà raconté sur l'antenne. Quand les premiers Espagnols sont arrivés au Yucatan, les Mayas leur disaient « Castillo, Castillo ». Ça vous dit quelque chose, Castillo ?
Non.
Castillan, Castillan. Qu'est-ce que ça veut dire, castillan? Mais alors, Céline, la Castille, où est-ce qu'elle est, la Castille? La Castille, c'est l'Espagne. Je parle catalan ou je parle castellano? Donc, les Mayas avaient déjà entendu quelqu'un qui disait castellan au castellano. Donc ils avaient déjà entendu des Espagnols leur dire qu'ils étaient castillans. Et c'était ces naufragés qui étaient arrivés en 1511, hein, qui leur avaient appris ces quelques mots d'espagnol. Donc Cortés s'est dit, ouh là là, si on sait là depuis 2 ans qu'il y a des gens qui auraient rencontré les Espagnols, peut-être bien que je vais en retrouver. Il a eu raison, il a trouvé quelqu'un qui avait eu 8 ans pour apprendre le maya. Donc il a eu un traducteur magnifique, ça vous rendra service Céline tout à l'heure, hein, vous allez voir. Puisque je pars du Yucatan avec un diacre qui parle parfaitement l'espagnol et le maya, vous y êtes? Vous remontez sur votre bateau, Céline. Vous êtes toujours Cortés, qui est arrivé là au début de 1519. Et vous glissez le long de la côte et vous arrivez au Tabasco. Ça vous dit quelque chose, le Tabasco? Vous en avez déjà mis dans votre cuisine?
Oui.
Mm-hmm. Et ben, c'est un état du Mexique aujourd'hui. Et la capitale du Tabasco s'appelle Villa Hermosa. Elle n'est ni Villa ni Hermosa. C'est-à-dire qu'elle est moche comme tout et c'est vraiment pas l'endroit où je vous souhaite d'aller vivre. Il fait 50 degrés, c'est super. Il y a des moustiques gros comme des avions. C'est vraiment l'endroit où ça pue le pétrole et les vaches. C'est génial. Eh bien, c'est dans cette région-là que Cortés a reçu en cadeau une superbe princesse. Il en a reçu 20, pour être exact. Et dans ces 20 femmes qui lui ont été offertes, il y en a une qui était d'extraction aztèque. C'est-à-dire que c'est sûrement son tonton, son parrain, on ne sait pas qui, ou un marchand, qui l'avait laissé ici à un riche cacique de la région du Tabasco. Et cette femme avait donc appris la langue maya de la région du Tabasco et parlait couramment. Hein. C'est comme si vous étiez saint-galloise. Mais non, vous êtes née à Genève, hein, Céline.
Oui.
Si vous étiez saint-galloise et que vous parliez encore le saint-galais, le saint-glagla, et que vous aviez encore ce petit accent suisse-allemand sympathique, effectivement, si par hasard c'était la langue de l'Empire, eh bien ça nous permettrait d'aller envahir Saint-Gall. Hmm, vous avez pigé?
Oui.
Ben oui, c'était génial. Même si la langue maya est un tout petit peu différente au Yucatan, dans la région du Tabasco, quand Cortés est arrivé sur la côte du Golfe à Veracruz, hein, il avait 2 traducteurs, dont cette femme qui va très très vite apprendre l'espagnol, et dont il va se faire son amante, et qui va donner des enfants à Cortés aussi, il en a eu plusieurs. Et quand il arrive devant l'empereur Montezuma le 8 novembre 1519, eh bien, effectivement, il a à côté de lui la traductrice qu'il lui faut pour rencontrer l'empereur aztèque. Vous y êtes?
Oui.
Alors vous me faites quelque chose de très spécial, Céline. Parce que non seulement vous avez une date qui historiquement me touche déjà par rapport à l'arrivée à Mexico, parce que ce moment a dû être impressionnant. Essayez de penser. Vous connaissez Venise?
Venise, oui, mais il y a longtemps, oui.
Et alors?
Ah oui.
Mexico, c'était bien 1519, Céline. Vous vous en rappelez? Oui, il y a très longtemps. Alors quand vous êtes arrivé à Venise, vous êtes arrivé certainement avec quelque chose qui ressemblait à de l'eau, non?
Oui.
Oui, on vous a mis en train jusqu'à San Marco. Mais oui, c'est ça. Non, vous êtes d'accord que depuis la gare, hein, si vous êtes arrivé par train, vous avez bien dû prendre un vaporetto.
Certainement.
Ou alors à pied.
À pied, oui. Mm-hmm. Pied, ça se fait.
Or, à pied, ça se fait par les ponts et par les rues qui sont à côté des canaux. Hein.
Non, mais je crois bien sur un bateau. Ouais.
Ben oui, ben Mexico, si vous voulez, c'est Venise au milieu de l'eau. Et depuis les bords de l'eau, qui était cette immense lagune de 80 km de côté, eh bien, il n'y avait que 4 digues pour arriver dans le centre qui représentait Venise. Or, vous imaginez Cortés avec ses troupes, avec ses hommes, avec ses canons, avec ses chevaux et ses milliers d'Indiens qui l'accompagnaient et qu'il avait pris en route, et spécialement à Tlaxcala, eh bien, il est rentré dans Mexico par une des digues. Et c'est tout au bout de la digue, hein. C'est pas très loin de la place principale de Mexico. Il y a même un édifice spécial, il y a une église qui a été construite pour cette rencontre-là, de ce mois de novembre 1519. Et vous aviez l'empereur Montezuma avec toutes ses plumes et sa chaise à porteur et tous ses prêtres qui arrivaient en face. Et ça a été le lieu de rencontre du monde occidental avec le monde aztèque. C'était un moment extrêmement fort. Or, ça s'est passé dans un jour qui nous permet et qui me permet de vous parler, Céline.
Ah, vous avez parlé du 8 novembre.
Oui, c'est pas votre date de naissance?
Non.
Ah bon?
Ah bah, alors, écoutez,
moi, c'est ce qu'on m'a donné.
Alors, moi, c'est ce que j'ai compris, Céline.
Non, c'est le 9.
Oh là là.
Ah oui, mais alors, je sais pourquoi. Ça, c'est pas grave du tout. C'est moi qui ai fait la correction. N'ayez aucune crainte.
Ah bon?
Oui, parce que... Oh, vous êtes géniale, Céline. Vous êtes exactement aztèque. Vous ne pouvez pas être plus juste.
Ah
vous
bon?
Savez pourquoi?
Non.
Parce que, en fonction de votre heure de naissance, il est vrai qu'on ne sait pas si la date de la rencontre de Cortés et de Montezuma, on connaît le jour du mois de l'année de 365 jours. Vous y êtes?
Mm-hmm.
On connaît le jour du calendrier de 260 jours. Et on hésite toujours entre un 8 ou un 9, mais pas un 8 ou un 9 novembre, mais un 8 ou 9 mouvement. C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans le système du calendrier, il y a deux façons chez les prêtres aztèques, et je l'utilise d'ailleurs, de séparer une journée. C'est-à-dire que la journée telle que nous le faisons n'est pas forcément la même que les aztèques faisaient. C'est pour ça que je demande toujours l'heure de naissance. Vous comprenez ? Donc, selon le moment où vous écrivez le jour de rencontre, vous pouvez dire qu'il s'agit du jour. Ce que je veux dire, c'est comme si, en admettant qu'au lieu, là, il est 23h31 et je resterai peut-être jusqu'à minuit avec vous, Céline, si ça vous fait plaisir.
On verra.
Oh, on ne sait jamais. Eh bien, avec tout ce que je vais vous dire, vous n'imaginez pas quand je vois votre thème qui est effectivement du 9 novembre et qui glisse au 8 novembre à cause de votre heure de naissance.
Okay.
Eh bien, heureusement, hein, le thème est juste, je l'ai fait juste, sinon ça serait une transformation qui ne serait pas tellement gênante d'ailleurs. Vous allez voir que vous êtes déjà tellement exceptionnel. Vous n'êtes pas exceptionnel par rapport au jour, vous êtes exceptionnel par rapport à la trezaine, par rapport à votre conception et à votre naissance. Je crois que vous êtes la deuxième auditrice depuis que je fais des émissions, et ça fait un moment que j'en fais, hein, Céline, qui a effectivement choisi d'avoir un signe, qui est le signe... Alors là, vous êtes entre deux, hein, puisque vous êtes du 9 et du 8 pour moi. Je reprends votre date, vous êtes bien de... Et je ne dirai pas la date. Et à partir de là, je regarde votre thème. Vous êtes effectivement entre 9 vautours et 10 mouvements. C'est votre thème à vous. Donc exactement comme la date de Cortès a été coupée en deux parce que l'horaire de la rencontre a été pris par des chroniqueurs qui ont donné l'horaire du matin, c'est-à-dire de la nuit et du matin, et d'autres qui ont donné l'horaire de la fin de la journée, mais qui n'est plus le même jour. Vous me saisissez ? C'est comme si vous, maintenant, je finis l'émission, il est 23h32, je dis « Oh, j'ai rencontré Céline sur l'antenne le 23 novembre 2006. » Et tout à coup, on se trouve à 0h15. Bah, je m'excuse, on est le 24.
On est le 24.
Bah ouais. C'est exactement ce qui se passe. Alors, vous n'avez pas fait...